Les Cascodeurs Podcast, épisode 306. Alors, tu squash ou tu pointes ? Enregistré le 9 février 2024.
Pour soutenir les Cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs.
Bonjour et bienvenue aux Cascodeurs. Nous sommes probablement l'épisode 306 et nous sommes le 9 février 2024 et je suis accompagné de Katia et de Arnaud. Hello!
Salut!
Salut tout le monde!
Ouais, salut! Ça va.
on est tous et toutes contentes ici.
C'est la politique de la maison, on est contents. Ouais.
On est contents.
Non, pour tout vous dire, on en parlera après, mais on a fini a priori la grosse première passe de la sélection du CFP d'Evox. Et comme il se trouve que nous trois avons participé, on est tous fatigués. Voilà, ouais. Parce que vous avez envoyé beaucoup de conférences et donc il y a beaucoup de choses à revoir et à discuter. Voilà. On en parlera après,
oui.
Allez, on va se lancer. Dans les nouvelles directes, d'abord dans les langages. Et puis Guillaume qui nous a encore fait un petit blog intéressant sur les builders. Je ne sais pas si vous avez lu, il a essayé de trouver une alternative au builder pattern Java classique.
Il s'est inspiré de la communauté Go.
Ouais. Et donc le builder Java classique, y a la méthode pour lancer pour dire new build quoi, et puis toutes les opérations qu'on veut faire, et à la fin faut cette méthode de fermeture point build point end point create, ce genre de choses. Donc il essayait de trouver des alternatives. Donc il y a des gens qui avaient utilisé des lambda, mais c'est pas très au niveau de la découvrabilité des propriétés, c'est pas top. Et donc il s'est inspiré de Go en utilisant fondamentalement des top-level méthodes qui sont des consumers de... En fait, c'est pas facile à dire à l'oral, mais en gros, il y a des top-level méthodes qui disent ben, « Tiens, moi, je prends l'objet en paramètre et puis j'applique la valeur de la propriété. » Donc, on va dire... Il va y avoir email qui va prendre un objet user et qui va faire user.email égale l'email qu'on a passé en paramètre. Donc, c'est des consumers, si je me trompe pas, consumers de email. Voilà. Et du coup, le builder, c'est juste c'est comme un constructeur. Ça va être new object avec passer un varg de tous ces builders-là, des top-level méthodes. Et donc, on va pouvoir les appeler les uns après les autres. Donc, ça, c'est bien. Moi, j'avais fait des retours en disant que ce que j'aime bien dans le builder qui a une méthode de fin, c'est que, en fait, on peut le raffiner en disant, bah non, mais ces trois paramètres, ils sont obligatoires en même temps. Ensuite ces deux paramètres sont optionnels ou alors tu prends que ces quatre paramètres et ça fonctionne, voilà. Et donc ces règles là on peut les appliquer en créant des sous-interfaces qui font en gros un DSL de construction de l'objet. Alors c'est pénible à écrire, mais ça permet au niveau de la création d'être vraiment pratique. Et il a découvert en fait, donc quelqu'un qui lui a réexpliqué ça avec des mots un peu mieux, et surtout il y a une librairie qui permet de faire ça qui s'appelle Jilt, J-I-L-T, qui permet justement avec des annotations et un annotation processor de générer les builders DSL dont je vous parle en fonction des annotations que vous allez mettre sur les objets que vous voulez voir créer. Donc petit outil intéressant. Alors moi les annotations processeurs ils perdent 10 points de popularité juste parce que ce sont des annotations processeurs, mais après, si vous êtes plus neutre que moi, ça peut être super intéressant comme petite librairie.
Et c'est quoi que tu as reproché aux annotations processeurs ?
Ah, c'est toujours la merde à configurer. Enfin, je sais pas, moi, ça marche jamais, ou Eclipse, il ne le trouve plus, ou IntelliJ, voilà.
Oui, ça c'est la galère. Avec InfiniSpan, nous on a ça pour faire des annotations et très souvent, du coup, tu vas lancer tes tests et là tu peux pas, il faut rebuilder tout. C'est assez galère à chaque fois. Mais bon, avec Quarkus, ça marche bien pour le coup.
Mais parce que c'est pas l'annotation processor.
Voilà. Ouais. C'est, ah ouais, bah voilà.
C'est pour ça, en fait, hein. Y a c'est pas une des grosses raisons pour laquelle il n'y en a pas.
Bah, du coup, il y a quand même, cette différence, énorme par rapport à ça. Parce que finalement, notre code est pareil. On a des annotations processor, mais, avec Quarkus, ça, c'est une différence entre le build de Quarkus et le build, d'InfiniSpan.
Ouais. Et toi, Arnaud, tu voulais.
Oui, pardon, je t'ai coupé.
Non, mais j'avoue que je suis moins réticent que toi, ça m'arrive de les utiliser. J'ai même été fan à une époque de Lombok et tous ses amis. C'est pour ça que ça m'a passé un peu. Mais c'est vrai que, enfin, ça m'est déjà arrivé effectivement tous ces ennuis de ces mal configurés, ça fiche la grouille entre l'IDE, le build, etc. Mais j'ai quand même eu rarement ces cas-là. Donc c'est vrai que j'y suis pas super opposé. Après oui, je fais gaffe qu'il n'y en ait pas non plus 50 millions. Mais il y a toujours plein de projets qui effectivement on propose pour faire de la génération. Et après, je trouve en termes d'utilisateur, quand ça marche, je trouve ça super pratique. Je suis d'accord qu'il y a les cas où ça marche pas, que ça fait plus chmire, mais ouais, je suis pas si opposé.
En fait, ça finit
ça.
Par tomber en marche. Un peu, c'est la meilleure façon que je puisse expliquer. Et des fois, ça retombe en panne et tu galères jusqu'à ce que la synchro entre ton rebuild et ton IDE, ça, je sais pas.
Ouais,
bah après, c'est, du coup, ça fait un certain temps que je n'utilise plus, donc peut-être que ça, tout ça, c'est des problèmes du passé.
Allez, ouais, parce que je t'avoue que, j'en ai pas spécialement vu des problèmes. Là, j'en ai encore sur le projet de cfp.dev, là, que désormais, je bosse avec Stéphane dessus. Bon, je n'ai pas eu de soucis comme ça, donc, mais je sais pas, ouais, peut-être que ça s'est stabilisé aussi, je ne sais pas.
Allez, on va passer à une...
Les projets CFP, tu parles, pardon, de l'application pour les votes.
Ouais, l'application des votes CFP.
Parce que c'est open source.
C'est pas open source.
Ah, ok, c'est pas open source.
Pas open source.
Ah. Je disais ça, ça se trouve, si c'était open source, tu pourrais avoir un appel à contributeurs.
Les bugs sont open source, tu peux ouvrir des...
Les bugs sont... tu peux monter des bugs dans un projet open source. Il y a une belle liste déjà qui existe.
Voilà, sinon, donc, il y a une JEP autour de continuer à améliorer le fameux pattern matching et notamment à amener toute la partie primitive, c'est-à-dire les int, les doubles, les floats, etc. Bon, je vais essayer d'expliquer, mais vous allez me couvrir. Hein, mais en gros, de base, les primitifs, ils sont pas pris en compte. Et là, ce qu'ils proposent, c'est de pouvoir justement les utiliser, donc pouvoir faire des cases, non pas case de l'objet user U pour dire voilà si c'est un objet de type user, faites quelque chose, mais case int I. Et là, on récupère la valeur de I spécifiquement. Et on pourrait même potentiellement mettre des contraintes I quand i est supérieur à 100, voilà, ce genre de choses. Et pareil, ils veulent pouvoir permettre de faire du... Alors là, c'est un peu plus subtil, c'est si la valeur... Donc là, ils prennent l'exemple de JSON. JSON, en fait, les nombres, il n'y a pas de spécialité int, float, etc. Donc en Java, on les stocke en double. Et par contre, en général, on sait peut-être que c'est un int ou c'est plus pratique d'utiliser un int ou ce genre de choses. Et donc là, ce qu'ils proposent, c'est qu'on pourrait faire un pattern matching avec JSON number de type int, i. Et en fait, si la valeur est convertible en int sans perte d'information, à ce moment-là, on rentrerait dans le case. Et si on rentre pas dans le... S'il y a perte d'information, à ce moment-là, on rentre pas dans ce case-là, au niveau du pattern matching, pour spécialiser les choses. Ça me paraît un peu casse-gueule personnellement, mais voilà, c'est un des points qu'ils avançaient. Voilà, et après, bon, il y a beaucoup plus de détails et de nuances que ce que je viens de vous expliquer, parce que la JEP, elle est déjà, c'est un bon petit paquet, hein, c'est 7-8 pages, quoi. Mais voilà, c'est l'idée de pouvoir utiliser les valeurs primitives dans les pattern matching de manière aussi avancée qu'on peut faire aujourd'hui les objets et de les amener au même niveau en fait. Voilà.
je trouve intéressant le JEP aussi pour comprendre les transformations des données, genre ce qui est la transformation des données, je veux dire, je m'explique, l'effet que tu puisses dire ok, un int instance of byte, il va dire que oui, si cette valeur est entre -128 ou 127, ouais, mais sinon dans l'autre cas, il va dire genre si t'as un int qui a la valeur entre -128 ou 127, les instance of byte, il va dire c'est oui. Et sinon, il va te dire, c'est non, c'est pas un byte.
C'est ça.
Et du coup, pour comprendre toutes ces subtilités, que parfois c'est compliqué en Java à comprendre un temps, mais pourquoi, j'ai perdu de la, pourquoi un float, je peux le traduire, je sais pas comment, mais j'ai perdu l'information ici ou pas, comprendre tous ces les équivalences entre les différents types primitifs. Je trouve que c'est très intéressant, à lire. Voilà, juste ça. Et puis, je pense que oui, ça va faciliter, quelques écritures de code qui peut-être sont pas hyper sont pas une évidence si tu fais peut-être du code fonctionnel objet comme ça, mais sur des librairies, des trucs comme ça, ça va être très intéressant à changer certains codes pour aider la lisibilité et permettre que le permettre quelques erreurs qui apparaissent plus, quoi. Ouais. En runtime ou
Il voulait vraiment faire la chasse au if générique, un peu pénible à écrire, if, else if, else if,
voilà.
D'avoir l'équivalent mais plus compact, donc d'avoir le switch case qui aille au bout de cette logique-là.
Et puis ça évite surtout de se poser des questions, parce que c'est surtout, je pense, la charge de se dire, alors c'est quoi là, c'est un objet, c'est un entier, c'est un machin, donc en fonction de ton code, ça dépend du code que tu maîtrises ou pas, mais là t'es obligé d'adapter ton flow en fonction de, c'est quoi le type. Donc je pense qu'ils essayent de faire effectivement que ça soit complètement unifié, que tu t'es plus à te poser la question, tu dis tu veux faire du filtrage machin, tu peux faire un switch dans tous les cas. Aujourd'hui effectivement tu te poses la question, faut que ça soit un objet, pas un machin, etc.
Vos deux points ils pointent vers un des trucs que je voulais dire, c'est que ça n'empêche pas le fait qu'il faut que tu comprennes qu'un int, il n'est pas toujours transformable en byte. Parce que sinon, tu vas dire byte et puis tu vas oublier ta case défaut et puis des fois, il ne va rien se passer, tu ne vas pas comprendre.
Exactement.
Ça ne résout pas le problème fondamental d'apprendre la conversion de type qui n'est pas forcément convertible dans tous les sens. Quoi. Sauf en JavaScript, évidemment.
Et c'est bien pour ça qu'on adore JavaScript.
Ouais.
Pour pouvoir faire n'importe quoi. Et
JavaScript, il y a toujours une solution.
Voilà, qu'est-ce qu'on met? Ça marche. Allez.
Ouais.
Super.
YOLO.
Ouais. C'est les bons côtés, c'est les bons côtés. C'est vrai que quand tu fais beaucoup de Java et des langages typés, et après tu fais des langages qui n'ont pas de type forcément en JavaScript, je parle en général, il y a un petit côté de qu'est-ce qu'on fait là. C'est un petit peur qui te dit en mode mais attends, on est en train de, c'est pas bien tout ça, non? Et après il y a un autre côté dans lequel tu dis bah oui, c'est très très bien, dans certains cas c'est vraiment mieux même. C'est marrant d'avoir les deux approches pour ça dans les langages de programmation.
Ouais.
Moi qui passe ma vie à switcher entre Ruby et Java, je peux te dire que des fois, c'est compliqué.
Ruby. Moi, Ruby, j'avoue, j'ai eu toujours du mal j'avais vu un projet, c'était pas avec Rails, c'était avec des batchs faits en Ruby et dans lesquels il y avait plus de tests pour tester que les types étaient convertibles entre eux, justement pour tester le fait que ça soit un langage non typé, que des tests fonctionnels. Et du coup, j'étais un peu en mode, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on utilisait Ruby pour ça?
C'est le risque, hein. C'est là où effectivement, enfin, chaque langage a ses avantages et inconvénients. Mais c'est vrai que des fois, enfin, tu luttes, enfin, comme toi, je vois effectivement des fois beaucoup de code juste pour s'assurer que, parce que normalement, un compilateur nous ferait quand t'as un langage bien fortement typé. Et là, tu dis, mais flûte, je perds du temps.
Sinon, on peut enchaîner sur un petit article qu'on a trouvé sur InfoQ qui a résumé toutes les nouveautés, toutes les sorties, toutes les mises à jour de librairie Java. Donc, au lieu d'avoir 10 articles avec chaque mise à jour, il y en a qu'un, les Roundup. Et donc il y en a plein en fait sur OpenJDK. Voilà, il y a le Jept dont on a parlé, d'autres. Il y a une class file API qui est en preview. La JDK 23 qui est sortie, Early Access Build. Le JDK 22, pareil. Voilà, on a les deux. Du coup, Glashfish, qui a maintenant release la 12e du Glashfish 7. Graal VM aussi. Spring. Payara, que moi, je ne connaissais pas. Payara, personnellement, moi.
Ah, c'est parce que tu es trop jeune pour avoir fait... a vu les serveurs d'application, l'explosion des serveurs d'application. Donc, Payara, ça vient. C'est Glassfish aussi, d'ailleurs. C'est un fork de Glassfish.
Ah, je ne savais pas. Mais tu penses vraiment que je suis trop jeune comme... Attends.
C'est quand...
Merci beaucoup. Hein, merci, ça fait plaisir. On me voit toujours.
Quand
on voit toujours tes juniors. Ouais. Et donc, ouais, si on continue, bah, Open Liberty, Quarkus, qui a fait la release 3.7. Il y a beaucoup de Hibernate, et puis, ça m'a fait plaisir de voir Infinispan. Après, en même temps, c'est à Payara. Pourquoi il va pas avoir Infinispan? Je serais, maintenant que tu me dis ça, j'aurais été, outré de pas avoir Infinispan dessus. Mais voilà, c'est une blague. Grails, Tornado. Bon, bref, plein de choses, parce que là, on release Keycloak, Langchain 4G, qui a fait la release 0.26. Et d'ailleurs, je suis trop fière, parce que j'ai fait une pull request sur Langchain. Je suis dans la fête.
D'accord.
Je suis dans la fête. Je fais partie de la partie, moi. Ah. Pas mal. Est-ce que vous êtes dans la fête, vous?
Non. Guillaume est dans la fête aussi. Je crois qu'il a fait des pull requests aussi.
C'est ça.
Est-ce qu'ils sont, ils ont été mergés, ces pull requests?
Oui, je crois.
Oui, parce que...
La 0.27 est sortie aujourd'hui, je crois, que j'ai vu passer ce matin.
Ah, bah voilà.
Elle est en train de sortir. Donc là, ça y est, tu vas être célèbre. Normalement, ton code est même en production, normalement, je pense.
Oh my God. Bah voilà, ça, c'est ça. Tu es là, en 2024, soit tu es Langchain 4J ou soit pas. Il y a deux options.
Soit t'es pas, ouais.
C'est ça.
Allez, on va passer à données et intelligence artificielle. Le premier, c'est plutôt de la sécurité. Mais il y a des chercheurs en sécurité qui ont fait une attaque de la chaîne de construction de PyTorch, qui est utilisée par tout le monde, hein, Google, Meta, vous. Donc, c'est un outil un outil justement de construction de modèles en intelligence, d'exécution de modèles en intelligence artificielle. Et donc, ce qu'ils ont expliqué, c'est plutôt une attaque générale autour de GitHub et notamment via les self-hosted, comment ils appellent ça, workers. Donc, c'était intéressant. En gros, par défaut, on peut pas lancer une pull request. Elle doit être validée par quelqu'un de l'équipe. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont corrigé une typo. Du coup, ils ont contribué au projet. Et à partir de là, le projet, la règle, c'était tous ceux qui ont contribué au projet ont droit de faire tourner leur pull request, faire tourner la CI sur leur pull request. Et donc, à partir de là, au lieu de la faire tourner, si on la fait pas tourner sur les workers GitHub qui sont un peu plus isolés, on peut les faire tourner sur des self-hosted workers. Ces self-hosted workers, ils ont deux modes. Il y en a un où le worker est détruit à chaque fin de pull request et un autre où il est réutilisé, en fait. Et donc, ils ont envoyé une deuxième pull request qu'ils ont mis en draft, qui en fait exécutait du code sur le worker, sur lequel ils ont réussi à installer un truc résident qui restait pour écouter un peu les choses qui se passaient. Et puis, je crois, petit à petit, ils ne pouvaient pas vraiment... envoyer un push pour générer une... Non, comment ils ont fait? Je crois qu'ils avaient un truc où ils ont... Ah, c'est ça, ils ont fait une nouvelle release du projet, non pas directement, mais ils ont fait une branche et après, ils ont utilisé le mergebot classique pour qui va lui exécuter le machin. Ils ont utilisé les GitHub tokens qui leur ont permis d'avoir par malchance, entre guillemets, le GitHub token, il avait beaucoup d'accès d'écriture et pas juste de lecture. Donc, c'est comme ça que petit à petit, en mouvements latéraux comme ça, mais tout ça au sein de GitHub, sans avoir hacké GitHub, mais avoir hacké la configuration de PyTorch dans GitHub. Ils ont réussi jusqu'à avoir les clés AWS pour publier dans S3 les nouvelles releases de PyTorch, qu'ils n'ont pas fait, mais bon, ils étaient pas loin. Et donc, je pense que ça vaut le coup pour quelqu'un qui est responsable de la chaîne de déploiement d'un projet open source de regarder ça, même si vous n'utilisez pas les self-hosted workers, parce qu'il y a des petites infos intéressantes sur la façon de penser les choses qu'on laisse faire, pas laisse faire sur la CI, qui a le droit d'exécuter le workflow, etc., etc. C'est un peu, toujours un peu plus subtil, on a tendance à oublier certains effets de bord qui peuvent être utilisés. Voilà. Ouais, et sinon, donc on en revient à Guillaume qui justement a contribué en l'intégration d'un des modèles, je crois, de chez Google à Imagen dans Langchain4j. Alors Imagen, je crois qu'il n'est pas super ouvert, en tout cas la nouvelle version, mais en tout cas l'intégration avec Langchain4j, elle est. C'est en playlist restreinte pour l'instant, je crois. Mais en tout cas, il montre comment. C'est dommage qu'il soit pas là parce que je voulais lui demander, parce qu'il a dit c'est intégré avec Langchain4j, mais il montre des API qui sont explicites Vertex AI, Image Model, etc. Donc je me demande, elle sert à quoi l'intégration versus l'utilisation explicite des API Vertex? Et c'est pas, je l'ai pas vu expliquer dans son blog post. Donc faudra qu'on fasse revenir Guillaume dans ce podcast.
Ouais, il est à Touraine Tech maintenant.
Ouais.
On ne peut pas faire une connexion en direct, malheureusement.
Ok, ouais. Ensuite,
La collab entre Google et Hugging Face. Voilà, avec l'intégration, pareil, des Vertex AI et d'autres services Google. Et aussi la facilité pour les déploys dans les clouds. Avec Google, l'intégration avec Kubernetes, etc. Donc, bref, encore une petite pierre à nouveau de collab avec pour faciliter l'intégration de AI.
Ils ont bien choisi leur nom, ouais. Hugging Face, parce que tout le monde veut être collaborateur de Hugging Face.
Donc, ouais, voilà. C'est super. Ouais.
Après l'article, je l'ai trouvé un peu trop. Press release marketing, donc je sais pas concrètement ce que ça veut vraiment dire, à part que si t'es client Google Cloud, ouais, il y a pas mal d'intégrations Hugging Face dans leur workspace que tu vas pouvoir faire, qui seront optimisées pour les TPU, là, les TensorFlow Process Unit. Mais j'ai pas bien, normalement, c'est aussi un intérêt pour les gens qui utilisent Hugging Face, mais pas forcément client chez Google, mais j'ai pas bien compris comment ça se faisait. Parce que les citations étaient un petit peu trop marketing. Voilà, et puis on va finir avec Guillaume, parce qu'il a écrit, alors il y a, vous savez, les phrases, on les découpe en morceaux pour faire des tokens qui sont après utilisés, c'est ce qui s'appelle notamment les embeddings, qui du coup sont transformés en points sur un vecteur. Et c'est ce vecteur-là qui est passé à tous les niveaux du réseau de neurones, notamment quand on utilise des réseaux de neurones pour après sortir des choses intéressantes. Mais par contre, c'est intéressant de voir comment est un des modèles d'embedding, donc de qui va générer les tokens, comment est-ce qu'il découpe votre phrase, vos textes, alors vos images, c'est un autre sujet, mais du coup, il a écrit une petite appli qui fait ça, qui prend les différents modèles, là encore, de chez Google, et qui, on peut lui passer une phrase, on lui demande l'exécution du modèle, et puis ça le découpe avec visuellement. Donc, c'est rigolo, on voit, là, quand on écrit « c'est anticonstitutionnellement », voilà, on voit comment tout ça s'est découpé en fait, pas mal de petits tokens, en fait. EST, ensuite l'espace est un token en tant que tel, anticonstitutionnellement, c'est découpé en au moins 4-5 tokens, etc., etc. Et ça change en fonction des modèles. Voilà. Donc, si vous utilisez notamment les tokens de chez Google, c'est une petite appli intéressante pour vous faire une idée d'un peu comment vos données seront découpées. Allez, on passe à l'outillage. Et il y a une petite polémique sur Stack Overflow.
Ah, Stack Overflow que... Il y avait le monopole de questions-réponses.
Il n'avait pas le monopole du dev.
Elle était le lead absolu. de comment je peux faire les choses. Réponse, tu copies la première réponse, après tu copies la troisième parce que la troisième c'était la bonne, pas la première.
en bonne réponse.
Ouais, même tu copies ce qui est de la question, même tu copies du code de la question, ce qui est encore plus vicieux. Mais j'avais, en effet, on voit qu'il y a une petite tendance à that's old. It's old. Ouais. Et donc, il y a une perte en vitesse. Et après, oui, il y a eu un tweet. Parce qu'on aime la polémique. Donc, chute, s'accélère. Donc, avec un graphe dramatique.
Ouais, une chute de 50% du nombre de gens qu'elle a sur Stack Overflow.
Mmh. Oui, dame, monsieur qui a des Santiago ideas et. Je sais pas qui c'est ce mec, mais bon, j'aime bien le anti-ego ideas for anti-ergodic life. Et donc il a proposé ça, et en fait apparemment il y a un peu pas, bah, comme tous les graphiques,
il y a du fun,
en fait l'histoire est beaucoup plus sympa si on dit c'est 50% que si c'est 5%.
Ouais.
Allez, en fait, mais d'accord.
Ce qui s'est passé, c'est un peu subtil. C'est que ce graphe-là, il vient quand même de Stack Overflow, au sens où tous les gens qui sont gros contributeurs, en fait, ils ont accès aux stats Stack Overflow. Là. Donc, ils ont accès à ça qui ressemble fortement à un graphe Google Analytics. Et ensuite, Stack Overflow a fait un « Non, non, mais en fait, on a changé la façon dont on configurait Google Analytics, donc ça explique pourquoi les stats ont bougé. Nous, ce qu'on voit, c'est une réduction de 5% des pages vues. Donc oui, c'est une baisse, mais il y a de la saisonnalité. Effectivement, quand ChatGPT-4 est sorti, on a une baisse de 14% pendant que les gens essayaient. Ils n'ont pas dit, mais soi-disant, ça serait remonté. » Et en fait, si tu cliques encore et que tu vas voir les réponses dans les commentaires du blog, tu l'as fait, ça ? Le mec, il dit, attends, non, non, mais vous ne dites pas vraiment tout. Quand on regarde, il dit, moi, de mon expérience en tant que lead d'un tag, j'ai beaucoup moins de demandes que j'avais avant. Là, ça fait quand même un an et quelques, ça descend sérieusement. En fait, depuis, il y a un gros pic Covid. Et après, ça s'est redescendu à normal, mais en fait, ça continue à descendre. Et il dit, globalement, on voit ça dans les stats partout, moins 50%, moins 70% de nouvelles questions, de nouvelles réponses. Voilà, donc il y a un truc qui se passe, c'est sûr.
Il y a un truc qui se passe, c'est sûr. Nous, par exemple, on n'est pas non plus, on n'a pas un million de questions-réponses non plus sur Stack Overflow. Hein. Mais il y en a qui tombent beaucoup sur les discussions de GitHub aujourd'hui, directement. Au lieu d'aller sur Stack Overflow, des gens qui viennent, ils postent une question sur les discussions GitHub. Par exemple, c'est même pas une question de ChatGPT, en fait. C'est, je peux dire, oui, peut-être que c'est aussi une question de ChatGPT, mais pas que, je dirais, parce que, en effet, on a bien vu ou avant, on avait presque toutes les questions un peu community qui tombaient sur Stack Overflow. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Okay.
Donc voilà, je pense pas, parce qu'en fait ChatGPT aussi, au bout d'un moment, il s'est arrêté aussi à donner certaines réponses. Genre c'est pas comme si ça se renouvelle. Il te dit bien, ouais, moi je me suis arrêté en 2022, j'ai plus de réponses là. Et de 2022 à 2024, il y a un tas de choses qui sont passées. Quand même. Donc, je pense que c'est aussi ça, c'est les outils. Et GitHub, pour le coup, je trouve que c'est l'outil en soi, le site et tout, c'est quand même pas mal, en fait. Pour les projets open source, c'est quand même pas mal. Ils proposent beaucoup, beaucoup d'outils à tout niveau pour aider à attirer les gens, à contribuer, à discuter, etc. Donc, je suis pas assez, cette information, c'est mon avis personnel et je suis pas sponsorisé par GitHub. mais je pense que pour le coup, ça a dû affecter aussi, oui, beaucoup.
C'est une bonne question parce que tu sais, avant, on avait des mailing lists, ensuite on avait des forums par projet et en fait, Stack Overflow est arrivé avec une interface vachement plus intéressante avec cette approche question-réponse et en fait ça a raflé tout et pendant longtemps les projets ils se disaient bon bah Est-ce que ça sert à quoi de continuer un forum alors qu'en fait, Stack Overflow, c'est plus cadré, de meilleure qualité?
Ouais.
Autant contribuer là-dedans, parce que de toute façon, ah oui, et surtout, c'est très bien indexé. Enfin, c'était en tout cas. En fait, c'est un des points qui est dans le blog de Stack Overflow, c'est que ben les moteurs de recherche, ils font évoluer leur algo, et donc peut-être que GitHub Discussion, il a sacrément remonté par rapport à Stack Overflow, tu vois, dans le moteur de recherche, et paf.
C'est bien possible, et aussi le côté... À part ça, désolée, j'avais une idée et je l'ai perdue. Pardon.
Ben,
j'avais
une idée, pas.
Je l'ai perdue par rapport à ce que j'allais dire.
J'ai dit ça 27 fois hier. Ouais. J'étais fatigué, j'ai dit ça 27 fois.
J'avais une idée, c'est parti. Sur ça, sur GitHub et
bon, mais c'est pas grave.
Les forums.
Tu vas nous parler des bots Renovate et Dependabot.
Ah, bah parfait, bah, justement.
Ça fait voilà. La même chose ou
en
pas
parlant, en parlant d'Oulu, ben nous on a ouais j'ai Mani Benoît a publié une image dans laquelle il explique un peu toutes les bonnes choses qu'il peut faire dépendant bot et du
alors
coup
c'est dans la doc de partagé. Renovate donc il y a quand ouais. même un... Renovate fait plus de choses bizarrement.
Oui, et du coup, elle s'est basée pour faire cette image d'un article de quelqu'un d'autre. S'inspirer de quelqu'un, mais du coup, en une seule image, elle a expliqué, voilà, toutes les petites choses qu'il peut faire, dépendant bot. Nous, on vient de le rajouter il y a pas longtemps aussi. Ça a fait quelque chose, hein. D'un coup, on avait, 200 pull requests de, attends, chaque titre. Ouais. Parce que là, avant, nous, c'était genre, ah, c'est le moment de mettre à jour ça. Allez, faisons ça. Tic, 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 tic. Tu faisais ta petite pull request. T'étais content. Les mauvais côtés de ça, je dirais, c'est que avant, t'étais content. Tu dis, ah, j'ai fait une petite pull request, une contribution. Et ça s'émergeait dans le main. Et du coup, dans ton petit tableau des contributions de GitHub, t'avais un petit truc vert qui s'est rajouté. Maintenant, c'est Dependent Bot qui a pris ça. Voilà, ça nous enlève des petits trucs verts. Et ça, c'est le mauvais côté. Mais les bons côtés, c'est qu'en effet, c'était un peu chiant quand même, comme travail, de mettre à jour tout et de savoir tous les trucs. Et du coup, c'est vraiment très utile, en fait, pour les projets, pour mettre à jour des dépendances, d'avoir les bots qui le font.
Ouais, et donc, vraiment, notamment, ouais. Des trucs genre rebaser systématiquement une PR ou faire
c'est
un launch, squasher. Mettre à jour, donc Dependabot, ça met aussi à jour les dépendances, c'est ça à la base quand même.
Oui, c'est ça. Exactement.
Mais il faut bien voir que et c'est ce que montre effectivement Renovate dans sa comparaison, il y a, bon, Dependabot, c'est que GitHub, ça fait le job, ça marche assez bien sur les petits repos. Après, bah, moi perso, sur du professionnel avec un monorepo, ça marche plus du tout parce que c'est limité en termes de taille, en termes de timeout, etc. C'est vrai qu'en termes de configuration, ça reste assez basique. Hein. Il n'y a pas non plus 50 millions d'options pour configurer des Dependabot. Donc, en gros, tu choisis ton intervalle de ta fréquence de mise à jour, quel type de package, où sont les packages, enfin les fichiers de description des packages, etc. Et puis, il va te faire ses pull requests, c'est assez magique. Tu as des options un peu plus avancées si tu veux toi-même définir les groupes de dépendances que tu veux faire ensemble, parce que il y a toujours des trucs un peu relous si tu fais du front ou si tu fais certaines techno où, bah, en fait, pour utiliser une librairie, t'as 15 dépendances à mettre à jour dans ton projet et que, donc, faut que les 15 soient faites en même temps, parce que si t'as une version 1 là, 2 là et 3 là, bah, ça marche plus, hein, obligatoirement. Donc, tu peux créer des groupes, mais tout ça, c'est manuel. Dependabot reste donc très, très centré sur, je suis sur un projet, un repo, et je gère le truc en local. Renovate, ils ont effectivement vu le truc un peu plus grand pour se dire, on a la capacité à partager ces règles dans ton entreprise, dans ton organisation. Donc, tu as tes règles que tu peux définir. Donc, eux, ils en fournissent déjà plein par défaut. Tu peux dire, justement, alors déjà, ils ont des groupes, des notions de groupe par, bah, justement, tous les projets qui fournissent X collections d'artefacts d'un coup. Ils ont des notions des règles pour grouper tout ça dans des pull requests uniques.
Tu veux dire, c'est quoi l'exemple? Genre Spring Boot ou Quarkus?
Par exemple, ouais, Angular. Alors, nous, en Java, on est moyennement concernés parce que comme on triche en utilisant les BOM et en utilisant les pommes de dépendance, on est moyennement concerné, mais par exemple, tu vois, sur le front, je te dirais à Angular, tu vas avoir 15 dépendances Angular en fonction de quel module tu utilises. Il faut que tu sois tous dans la même version, sinon ça marche
d'ailleurs,
pas.
D'ailleurs, petit teaser dans le CFP, 357 sujets sur non, Angular n'est pas mort, venez c'est à ça. Ma conférence.
C'est ça, par exemple. donc c'est surtout, toi, sur ces trucs-là, sur
mises à jour dessus. Ouais.
Sur ce genre de techno, où t'as ce besoin, donc, de régler, de d'avoir des règles. Après, il y a plein de règles vachement plus avancées dans Renovate que tu peux activer ou pas. Tu peux décider, par exemple, de dire, par exemple, Angular, je veux que tu me fasses des dépendances, enfin, des pull requests différentes, en fonction de si c'est une upgrade mineure ou majeure. Parce que tu peux très bien imaginer que sur ton projet, même si t'as envie et que t'es super motivé d'aller sur la prochaine majeure d'Angular, c'est peut-être pas le truc qui va se faire en 5 minutes. Donc, bon, bah, ouvre-moi la pull request, on va déjà voir si les tests y passent, mais il y a peu de chances que ça se fasse d'une manière assez smooth. Par contre, bon, bah, tu me laisses les mineurs ou les bug fixes sur une autre pull request, ce qui fait que, bah, celle-là, elle s'auto-merge, etc. Donc, il y a, en termes de configuration, c'est vraiment beaucoup plus une boîte à outils chez Renovate, là où The PandaBot, c'est un framework avec un peu de configuration et donc assez limité, mais bon, ça fait le job, hein, sur, je dirais, 90%, voire plus des projets. Mais Renovate a plus cette vision de, on fait quelque chose qui va être partageable, donc scalable dans une entreprise. Tu peux donc, toi, t'es, par exemple, t'es chez Red Hat, tu veux avoir tes propres règles d'upgrade de tes dépenses Java, de tes dépenses Node, etc. Bah, tu vas créer tes presets de Java, machin, et tu diras à tes projets, vous vous embêtez pas, tu prends le preset Java, le preset machin, tout sera fait pour toi, il y aura les bons groupes, les bons machins. Pareil, il y a pas mal de choses où ils sont assez sympas. Pour l'onboarding, tu configures ton Renovate, tu lui donnes accès à ton ou tes repos, ton organisation en fonction de ce que tu veux faire. Il va te faire des pull requests de pré-configuration de Renovate, il va te dire, bon, bah, tiens, j'ai découvert que t'as du Docker, t'as du Maven, t'as du machin, etc. Je te propose de le configurer comme ça, c'est le truc de base. Puis après, tu tunes ta configuration, puisque t'as ta configuration dans ton repo. Voilà. Donc, pas mal de petites différences. Donc, ouais, la doc de Renovate est assez, accurate, comme on dit en français, réaliste, sur les comparaisons. Précise, merci.
Honnête,
c'est ça que je cherchais comme mot français. Entre les différences entre Dependabot et Renovate, Dependabot, honnêtement, fait le job sur 90% des projets, surtout si vous n'avez pas des monorepos, des trucs très compliqués, etc. Mais ouais, c'est vrai que Renovate vous permet d'aller plus loin et vous avez vraiment une boîte à outils pour gérer ça. Des trucs très cool, d'ailleurs, dans Renovate, vous pouvez aussi créer vos propres système, enfin vos propres algos plus ou moins d'upgrade. Donc t'imagines que t'as des fichiers un peu spécifiques dans lesquels tu gardes des versions de n'importe quoi, bah tu vas être capable de lui dire, bah tiens, cherche-moi la regexp qui va correspondre à une version dans ce fichier-là, base-toi sur le catalogue, dans le repository, je crois qu'ils appellent ça, de version de l'artifact Tartampion, et donc bah tu me proposeras les updates. Donc tu peux aussi créer ta propre customisation d'upgrade dans tes projets, voilà. Donc voilà, une bonne boîte à outils qui est efficace, et les deux sont open source. Sont open source.
Oui, la différence, il y en a un qui est de GitHub, ça, non, voilà. Dependabot et de
Dependabot a été racheté par GitHub. Voilà, et ne marche que sur GitHub. Renovate fonctionne sur GitLab et d'autres. Par contre, sur Dependabot, à ma connaissance, si vous le devez, alors sauf si vous êtes client du GitHub Enterprise, dans ce cas-là, il y a une solution pour le faire tourner sur vos custom runners. Mais si vous êtes sur du GitHub Cloud ou si vous êtes donc justement des projets open source, là ça tourne sur l'infra GitHub, donc avec ses limitations en termes de je sais plus, il y a un timeout d'une heure pour mettre à jour les dépendances, etc. Donc vous êtes limité en termes de service, voilà.
Waouh. Alors les licences, par contre, c'est, donc Renovate, c'est Affero GPL. Mm-hmm. Donc, tu peux pas faire un service Renovate.
C'est ça.
Et ils, l'autre, c'est un, Prosperity Public License que je ne connaissais pas. Ils en sont déjà à la version 2.
C'est ça.
Maintenant, on est dans la. Il y a une époque dans laquelle on se battait pour quel framework de test je veux. Que si TestNG, JUnit, maintenant c'est quel framework de bot je veux. Est-ce que c'est mon bot Renovate ou mon bot Dependabot? C'est marrant.
Mais après comme tu le disais, ce qui est super important dans ces projets-là, c'est surtout de l'affiner pour tes besoins en fonction de ton projet, etc. Parce que bah oui, ça peut être tout de suite une vague de dépendance à mettre à jour et c'est pas le bon moment et le bon moyen de le faire. Ça peut être Après, pour ce que tu disais, pour les Dipendabot et tes jolis petits verres dans GitHub, bah, moi, comme je suis sur GitLab, c'est mon compte qui est configuré sur le CFP de DevOps. Donc, c'est moi qui ai réussi à avoir tous les commits de Renovate. Donc, c'est moi qui suis super actif alors que je fais rien sur le projet. Donc, c'est aussi sympa. Mais ça veut dire quand même que tu peux avoir vraiment une vague de commits et de pull requests pour les dépendances. Faut vachement le tuner en fonction de tes besoins. Parce que, enfin, nous, sur le CFP, par exemple, on avait, un certain retard en termes d'aide technique sur la gestion des dépendances. Ça a pris un bon paquet de semaines avant de réussir à raccrocher les wagons, upgrader ce qu'il faut, que ça soit sur le back, sur le front, etc. Si tu laisses juste le truc tourner bêtement, soit c'est une vague et que t'arrives pas à suivre, soit c'est juste que t'abandonnes très vite. Donc, pareil, il y a du pilotage à faire et configuration pour s'assurer que ça soit utile. Une fois que c'est sur les rails et que tu prends soin de tes dépendances de manière régulière, généralement, c'est pratique et simple à gérer.
Ok, allez, on va passer. Juste pour info, là, la Prosperity Public License, en gros, c'est une licence avec un temps de trial, d'essai. Et après, quand tu es au-delà de la liste du temps d'essai, tu ne peux plus l'utiliser à des fins d'avantage monétaire. Donc, ça reste toujours un peu subtil à définir ça. Mais voilà. En gros, si tu aides à développer des Pandabot, c'est open source, mais sinon, bon, un peu moins quand même. Allez, on va passer aux méthodologies avec le pouvoir des commits conventionnels.
Oui, et on a parlé aussi de Angular qui n'est pas mort. Bah justement, ça s'était poussé par l'équipe Angular. Voilà, les commits, les conventional commits, qui c'est un très très bon article de comment faire des jolis commits pour ton projet.
Et alors, mais c'est quoi un commit conventionnel alors ?
Ben, quand on lit l'article, on voit bien que au lieu de rajouter un simple message, un mode, allez, ben, j'ai fait ça, voilà, c'est fonctionnalité machin là, c'est vraiment de mettre un message par exemple que c'est d'abord tu dises la première ligne avec une résumé très précis de ce que ça fait, ensuite un paragraphe, donc un saut des lignes dans lesquelles tu mets un paragraphe avec dans lesquels tu peux expliquer plus en détail ce que ça fait, et à la fin un footer avec un key value pair pour rajouter de la metadata, par exemple si ça correspond à un issue en particulier, si ça correspond à une personne qui a pu faire une validation ou quelque chose qui soit importante pour qu'ensuite, justement pour qu'ensuite on puisse récupérer ces commits d'une manière intéressante et pouvoir les exploiter pour beaucoup de choses, autant pour les docs, pour savoir qui a fait quoi, pour suivre le travail, voilà, pour beaucoup de choses. Et donc voilà, un des choses que ça fait d'avoir, du coup, il explique entre autres bénéfices, le fait que si tu fais ta release par exemple avec GitHub, tu as automatic release change logs. Donc ton change log, il va récupérer ses commits et tu vas avoir un truc hyper joli et qui ça soit vraiment détaillé avec une documentation déjà faite, au lieu de dire ah là là mes commits, ouais, du coup on a poussé ça et ça et ça. Non, tu releases et t'as déjà ton release, tes release notes d'une manière assez bien faite. Et du coup après il parle d'autres choses qui sont des bénéfices. Il parle du fait de ça te force plus à réfléchir à la version que tu vas pousser. Après je pense que ça c'est je pense que ça c'est pour le coup un peu moins bon, à mon avis c'est pas les commits qui vont autant t'es poussé à faire ça, mais bon, c'est un bénéfice que ça te fait réfléchir un peu plus par rapport à ça. Mais bon.
Mais si tu fais une pull request avec 25 commits, parce qu'en fait, en général, la structure, notamment des changelogs, tu l'as fait. En fait, c'est ton issue tracker dans lequel tu définis les choses, nouvelles fonctionnalités, bug fix, etc. Et moi, typiquement, historiquement, j'avais donc un ID du issue tracker 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, bah, il était copié dans les 25 commits qui m'ont utilisé à corriger ou à implémenter cette fonctionnalité. Donc, tu sais comment okay. ils font
bah,
ça?
Pour moi, ça, c'est fait... pour moi, ça, c'est un véritable cauchemar. Après, si tu as un bug ou pour suivre ce qui s'est passé avec une fonctionnalité. Vraiment, là, c'est même pas genre sans venir au truc des messages ou de comment faire des commits. Si finalement tu fais 20 commits pour une fonctionnalité, pour ensuite la rollbacker ou changer, ça veut dire que tu dois gérer 25 commits. Ou du coup, moi, je comprends qu'à un moment donné, tu vas rajouter peut-être un pull request dans lesquels tu il y a des changements qui viennent. Du coup, tu fais des changements de retour, tu rajoutes un autre commit et que tu vas pas en permanence, voilà, que tu vas avoir une série de commits qui vont se rajouter. Mais pour moi, la bonne pratique pour faciliter justement tout ça, c'est que quand ça va être mergé, c'est de mettre tout dans le même commit. Vraiment, et squasher tout et avoir tout dans les mêmes commits pour ça, au lieu d'avoir 25 commits pour une fonctionnalité. Mais après, tout dépend de ta fonctionnalité aussi. En tout cas, ça, c'est mon expérience qui est...
Attends, Arnaud, là, il est pas d'accord. Arnaud qui nous fait un mime Marceau, là.
Arnaud, il n'aime pas.
Ouais.
Alors, vas-y, explique. Je suis toujours très partagé. Enfin, nous, c'est ce qu'on utilise chez Doctolib. On fait du squash systématique.
Du squash en bail, là, au club des gym.
Et c'est sûr que squasher les commits, c'est toujours une bonne chose parce que, comme tu dis, enfin, tu veux faire un river, tu veux faire un, enfin voilà, tu prends juste le commit, tu le retires, c'est réglé.
Si tu veux aller partager à d'autres branches aussi, si tu veux faire du cherry picking.
C'est plus simple, tu fais un cherry pick d'un seul commit, etc., etc. Donc, pour tout ça, c'est bien. Là où c'est pas bien, je trouve, c'est que, bah, effectivement, comme Manu le disait, enfin, moi, perso, quand je bosse sur une feature ou sur un machin, je suis comme lui. Enfin, je vais essayer de, c'est pas parce que j'ai un truc à faire que je vais faire un énorme, en tête un énorme commit, je vais faire plutôt donc le structurer par petites itérations et proprement écrire mes commits. Et effectivement, j'utilise souvent les conventional commits. Et surtout, bah, si j'ai un problème plus tard, si je veux faire un git...
Bisect.
Quand tu fais un bisect, bah là, t'es bien content de pas avoir un commit, mais d'avoir ton historique parce que tu tombes sur ton commit et non pas sur le gros truc qui dit, bah, c'est juste APR, démerde-toi. C'est sûr que c'est voilà, c'est toujours le même truc. C'est une question de c'est quoi la fréquence du que t'as besoin de faire un bisec versus la fréquence que t'as besoin de faire un revert. C'est toujours des
ou
trucs
un cherry pick.
Ou un cherry pick, etc.
Ou pointer à une fonctionnalité et à une issue et une voilà. Moi, je comprends.
C'est là où ça dépend de l'usage et je comprends très bien. Enfin voilà, nous on le fait, mais c'est vrai que moi ça me fait toujours un peu, ça me crève toujours le cœur de me dire bah voilà, moi j'essaie de faire le truc propre machin parce que effectivement il y a une séquence dans ma tête pour essayer que les commits soient lisibles machin etc. Et au final tu érases tout ça pour dire bon, ça devient un gros commit qui effectivement derrière est pas est moins simple à lire parce que même quand tu fais un blème, si tu fais un blème et que t'as un tout petit commit qui effectivement tu vois bon bah t'as touché ça machin, ça te donne des fois plus de contexte d'être sur ce micro change que quand t'as un blème qui va te renvoyer une PR de 15 ou 50 fichiers de modifier parce que t'as fait. C'est là où c'est toujours voilà, toujours partagé sur ce truc là j'ai l'impression il y a pas de bonne réponse, il y a pas de réponse parfaite. En tout cas, c'est vrai que les conventional commits, parce que c'était là-dessus qu'on était, c'est quand même super pratique. C'est juste que c'est une standardisation qui fonctionne. Il y a pas mal d'outils qui tournent autour, hein. il y a des outils en Node, comme tu disais, il y a une GitHub action, il y a plein de trucs pour essayer de, à partir de là, créer les changelogs, les automatiser, etc. C'est comme ça que je fais ceux de cfp.dev pour vous qui les voyez passer, mais avec les limitations de ce que dit Manu, c'est que le bah oui, si t'es en mode tu fais 15 commits pour une feature machin etc, bah dans ton changelog t'auras 15 entrées. Après tu filtres, hein, puisque tu filtres tout ce qui va être core, puisque après enfin tu peux choisir ce que tu machines, donc faut utiliser le bon tagging etc pour dire ce que tu veux garder. Mais c'est des conventions décidées en fonction de l'utilisation dans le projet et surtout de comment on gère notre repo Git, etc. Enfin, dans un monorepo comme Doctolib, c'est certainement bien différent d'une petite appli cfp.dev où on est deux. Les besoins sont pas du tout les mêmes et encore pire, un projet open source comme chez vous, enfin, c'est pas les mêmes besoins.
Exactement, c'est pas les mêmes besoins, donc il n'y a pas de réponse toute faite comme tu dis, et peut-être qu'il peut avoir des fonctionnalités que ça peut être intéressant d'avoir 3 commits, 4 commits, 10 commits, pourquoi pas. Mais voilà, mais je reste convaincue que dans la majorité des cas, vaut mieux, on peut aller faire des changelogs plus petites ou des trucs qui, voilà, que qu'on peut le s'agréger dans un, si on peut le s'agréger dans un seul commit, je pense que c'est mieux. En règle générale. Après, il y a des exceptions et des cas particuliers dans lesquels, oui, ça se défend ce que tu dis, Arnaud. Donc, en règle générale, même le fait de mettre différents, tu dis, ah ouais, j'ai fait différents commits, quand tu les squash, tu peux récupérer chaque message de chaque sub-commit. Ok, tu vas pas avoir le fichier exactement, mais tu peux avoir finalement dans ta liste de, dans ton détail du commit, toutes les changements qu'il y a eu et les contextes complets de la fonctionnalité. Parce que souvent, c'est pas qu'une seule commit d'une fonctionnalité, mais c'est le contexte complet dont on a besoin. Mais voilà, mais c'est en effet, c'est toujours des débats comme ça, c'est sympa.
Allez, on va passer à la loi société organisation. Donc, pour ceux qui suivent un peu les nouvelles économiques de la tech, il y a eu une seconde vague de sociétés qui ont viré des gens là en 2024. Donc Google, dans la division matériel Pixel notamment, et dans les ingénieurs qui me semblaient être un peu cœur langage. Donc il y a notamment Kevin Bourillon qui est connu par nous pour Guava notamment, qui est parti. Enfin, qui est parti. On lui a demandé de partir. Pareil, Okta a viré 400 personnes, dont leur devrel Matt Rabel, qu'on connaît beaucoup pour les Spring Boot versus Quarkus versus Micronaut, et puis plus récemment, comment intégrer OS 2 avec tout ce que vous voulez sur la Terre. Mais il y a eu aussi Microsoft, notamment dans gaming, eBay, SAP, Riot Games, les gens qui font League of Legends, Amazon avec dans la partie Prime et Audible, donc dans le contenu un petit peu. Unity, suite au bordel avec quand ils ont viré le CEO, le nouveau est venu, donc là il a fait un plan de départ, et plein d'autres. Donc ça, c'était juste en janvier. En fait, vous pouvez regarder sur TechCrunch, ils en ont une par mois là depuis un an. C'est voilà. Et puis sinon, Facebook fête ses 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on a le successeur de MySpace qui a vraiment fait décoller la notion de réseau social.
Ouais, et que maintenant, c'est devenu un truc de vieux, mais il est toujours là, parce que il a tout acheté, entre Instagram, WhatsApp et plus. En effet, ça fait 20 ans qu'on a transformé nos vies en vie publique, et que ça a beaucoup, beaucoup changé. Ça a beaucoup, beaucoup changé, ça passe vite, hein. Je me rappelle quand je m'étais ouvert le compte, je vivais en Espagne, donc ça date.
Ah ouais. C'est clair. Allez, on va passer à la rubrique débutant, avec premièrement un manuel de survie de la femme dans la tech.
Oui, j'ai mis cet article publié en Duchesse France par Florence Chevanois. Je pense que j'ai dit bien son nom de famille, parce qu'à chaque fois, j'ai dit n'importe quoi, Chabanois, ouais, je crois. Florence, tu m'excuseras si t'écoutes. Et en fait, c'est un article qu'elle avait déjà publié il y a longtemps, mais elle l'a republié, elle l'a repartagé à nouveau. Et je trouvais que je le lu et je trouve que c'est hyper intéressant. En plus, c'est vraiment un manuel de survie pour la femme dans la tech, mais en fait, c'est un manuel de survie aussi tout court pour n'importe qui, parce qu'il y a plein de conseils carrière qui peuvent servir vraiment à tout le monde, quoi. Et même du coup, si t'es un homme dans la tech, te dire ah tiens, je vais voir ce qui s'est dit, et te rends compte aussi il est très très bien documenté sur voilà, avec des chiffres à différents reprises sur les différents traitements qu'on a dans la société sur les hommes et les femmes. Donc je vais pas m'étaler là-dessus, je vous le partage. Moi j'ai trouvé qu'il était très 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 bien et je conseille que vous le lisiez tous et toutes vraiment. Vraiment très très bien. Super. Et merci à nouveau pour des articles comme ça qui sont vraiment très 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 nécessaires dans notre secteur et dans tous les secteurs en général, mais dans le nôtre en particulier.
Ouais, en fait il y a deux morceaux, il y a une partie sur les gens nouveaux dans la tech et ou qui rentrent dans une nouvelle boîte, c'est genre comment rester centré sur soi et d'exprimer clairement quand il y a des choses qui vous vont pas, quitte à un moment dire bah en fait on n'est pas fait pour être ensemble entre guillemets. Cette idée de toujours apprendre et d'être fiable, et puis après t'as des parties un peu plus, enfin ce qu'elle pense être un peu plus spécifique aux femmes, voilà, qui peuvent être des traits de société qui ont tendance à être répliqués inconsciemment et sur lesquels elle met un peu en lumière, j'ai l'impression.
Oui.
Voilà.
Et ben n'importe qui peut le lire et se dire ah bah tiens, bah même tu peux te dire bah tiens, on parle beaucoup de souvent les femmes ils vont avoir moins d'espace pour discuter en réunion, mais il peut avoir aussi des hommes qui se disent moi je suis dans une équipe dans laquelle je suis un mec avec beaucoup de mecs, ce qui est déjà un problème, qu'il n'y ait pas assez de diversité, mais admettons, on est dans ce cas-là, et il peut y avoir aussi des hommes qui se disent, ah, comment je fais pour, voilà, c'est aussi mon caractère qui fait que je prends pas la parole ou pour X raisons. Et en fait, c'est se rendre compte de ça aussi, en fait, qu'en fait, c'est important de se faire entendre, c'est important de se rendre compte quand toi, tu t'es fait entendre et pas les autres. Donc c'est dans les deux sens qui c'est un exemple que je mets hein, mais c'est dans les deux sens qu'on se rend compte qu'en fait il faut se rendre compte qu'on a tous et toutes des biais de tout type et qu'il y a aussi une société dans laquelle il y a des biais qui sont appliqués d'une manière systémique mais qu'en fait voilà il faut vraiment accepter que c'est comme ça et du coup voir quelles sont les attitudes que toi tu mets en place pour aller sur ces biais là et continuer à appuyer ça ou pas et aussi se rendre compte que même il y a parfois des moments dans lesquels pour X raisons t'as créé des biais qui sont là pour le coup c'est vraiment un extra parlons de biais sexistes, des biais de simplement que un jour un coéquipier à toi, homme ou femme, tu te mises une idée sur cette personne à la tête et tu la gardes à vie. Genre tu la gardes à vie et savoir que ça c'est des biais. Voilà, ça c'est des biais qu'on va avoir et que peut-être que la personne en face, par ton attitude, va pas pouvoir évoluer. Bah ça c'est quelque chose que je pense qu'on doit se rendre compte en tant que quand tu commences déjà en tant que junior savoir de bien s'entourer de mentors et des mentors hommes et femmes pour toi qui te ramènent vers le haut mais toi en tant que professionnel que tu commences à avoir l'expérience t'as rendre compte de ça en fait que t'es dans une position dans laquelle t'es expérimenté et que t'es là aussi pour faire sorte de faire grandir les autres. Je diverge un peu, pardon, je digresse un peu par rapport à ça. Et après l'article, oui, c'est vraiment manuel de survie de la femme dans la tech parce que c'est un peu plus dur, ouais, quand t'es un peu plus dur pour vous dire un peu. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment avoir la niaque à certains moments pour rester, quoi, quand t'es dans une position de minorité. Avoir la niaque de dire non, j'y reste. Mais voilà, c'est un très, très bon. Très bon article que je conseille à tout le monde.
Ouais, je me rappelle plus quelle interview, mais j'avais écouté une interview de Jeff Bezos, bon, qui est pas connu pour non plus sa gentillesse, mais en tout cas dans le, en fait, un des points qu'il a amené chez Amazon et chez les autres maintenant là. Je sais plus le Blue Space, enfin bon, ça truc qui va aller dans l'espace. Il dit eux, ils sont à la recherche de la vérité. Et il dit ben oui, il y a un biais. Si moi je commence à parler dans une réunion, c'est la merde. Tout le monde va s'aligner en fait.
Donc, voilà.
En fait, il a une politique explicite de commencer par le plus junior et puis chacun s'exprime et lui va parler en dernier en fait pour éviter les biais de seniorité. Alors non pas genre t'es obligé de t'aligner, sinon t'auras pas ton augmentation, mais vraiment, il y a un biais naturel. Ouais, le boss, il a dit ça, c'est sûrement que je vois pas tous les angles. Alors que le boss, il en sait moins que toi, si, en tout cas, tu t'exprimes sur le truc dans lequel t'as le contexte, quoi. C'est toi qui as fait le bug fix, t'as plus d'infos que la personne qui est, VP Engineering de la boîte. Après, il a d'autres contextes. Et donc, ce qu'il faut, c'est aller, tout mélanger. Donc, il fait explicitement le fait de s'exprimer en dernier dans les réunions, en fait.
Oui, et en parlant de s'exprimer aussi, juste pour rebondir sur une idée qui dit, par exemple, que les mots sont importants et que le fait qu'on utilise à chaque fois dans la terminologie, concrètement dans l'IT, les gars, les mecs, le dev, très, très masculin, bah, en effet, c'est ça. Ouais, en fait, à un moment donné, tu t'habitues. Je me rappelle d'une fois, j'étais dans il y a longtemps, de mes premières années. Je me rappelle qu'il y avait quand on a ouvert, ça m'est arrivé deux fois en fait. D'être dans une équipe et que j'ai dit, écoute, je sais pas, à un moment donné, on m'a laissé en dehors d'une blague ou en dehors d'une conversation et j'ai dit, écoutez, moi je suis un développeur comme les autres, je suis un mec comme les autres, un truc comme ça. J'ai dit un truc comme ça. mais je me rappelle quand on avait fait l'annonce au Paris Jog de Duchesse France. On l'a fait devant Paris Jog là, devant les 200 personnes et Antonio. Nous a posé la question. On était là, j'étais là. Il y avait Audrey aussi, Mathilde. C'était pas pour l'annonce des Paris Jog, c'était pour un groupe que j'avais créé pour travailler la certif Java. Et en fait, on a présenté le truc pour dire on va créer un groupe de ça, machin. Et il y a Antonio qui a levé la main. Il m'a dit mais alors vous êtes quoi? Mais c'est vous êtes des développeurs ou des développeuses? Et j'ai pris le micro et j'ai dit peu importe, on fait du code. J'ai répondu ça, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, si ça importe quand même. Si ça importe, tu vois, avec le recul, avec le temps, à ces moments-là, c'était genre, foutez-moi la paix. Déjà, on se met là et oui, on s'en fout, mais c'est vraiment, on fait là, on fait du code. Déjà, donnez-nous la visibilité en tant que... individu, femme, qu'on fait du code et on va pas juste parler de ça. Mais aujourd'hui, je me dis, si c'est important en fait, parce que tu te sens un peu exclu quoi, vraiment. À certains moments, tu te sens exclu et ça aide pas à inclure plus de gens en fait. Donc voilà, pour moi, si aujourd'hui les mots ça sont importants quand même.
D'accord. Allez, on va passer à un autre outil, une autre rubrique de débutants. C'est, alors, peu de rapport, c'est comment faire un thread dump en Java.
Allez, changement de contexte, context switch. C'est ce qui est un context switch expliqué par les cascadeurs.
Alors, on va pas aller dans le détail parce que l'article, il va vous expliquer un peu tout, mais justement, votre appli, elle bouge plus, c'est pas trop normal. Le thread dump, il va vous permettre de voir tous les threads, donc tous les différents éléments qui sont en train de tourner et les logs qui sont là. Et est-ce qu'il y a un log qui, vous voyez, qui est pas normal ou un deadlock où il y a deux logs qui s'attendent et que du coup ils seront jamais libérés. Du coup, il explique donc soit en utilisant Visual JVM Profiler, soit en utilisant JStack, KIL-3 ou JCMD, qui est la dernière utilité après Java 8. Il explique notamment les petites différences entre KIL-3 qui va vous faire l'export du thread dump là où le output de la console est envoyé. Donc ça, c'est dépendant de l'application. Si c'est un serveur d'appli, ça va être dans les logs. Si c'est une CLI, ça va être directement dans la console. Alors qu'avec JCMD, vous pouvez choisir où vous l'envoyez. Par contre, j'ai pas bien compris la différence entre JStack et JCMD du coup. En tout cas, en lisant rapidement l'article. Mais voilà. Et puis après, il explique un tout petit peu, alors pas dans le détail, mais comment ça se lit un petit peu les thread dump. Parce que ça a tendance à être très gros quand vous avez une application un peu avancée. Voilà. Alors, on en est où? On en est où? On en est là. On va parler des conférences. Et ce qu'on voulait vous proposer, c'est un petit retour de l'autre côté du miroir d'un call for paper, et en l'occurrence celui de DevOps France.
Il y a quelqu'un ici qui n'a absolument pas bossé du tout, ouais, dans celui-là, et s'appelle Arnaud.
Ça, c'est les managers, hein, ça délègue.
Moi, je me tourne les pouces. Moi, je fais tout le temps. Ça, c'est...
Voilà, Arnaud, il n'a absolument pas fait des commits sur l'outil de voting. Il n'a absolument pas organisé toutes les réunions et il n'a pas du tout organisé la communication avec les possibles speakers. Et il n'a pas du tout fait une presse pour nous expliquer. Non, il ne gère rien. Vous avez compris. Le mec, rien du tout.
Je glandouille, c'est pour ça qu'après je suis absent en cascodeur, tu vois, parce que j'ai piscine pendant ce temps-là.
Ouais. Ah, ben bien plus, sûr,
Devox,
poney.
Cette année, Devox France, il y a, je pense que c'est OK de le dire, mais il y a eu trois choses qui ont complexifié un peu les choses. Le premier, c'est que Devox France s'agrandit.
Voilà.
Il y a beaucoup plus de place, donc c'est cool parce qu'on peut avoir plus de sujets, ça c'est top, mais ça veut dire qu'il y a un peu plus de sélection, donc un peu plus de travail à faire.
Ça s'agrandit à qu'il y aura 4500 personnes, c'est-à-dire 1500 personnes de plus et deux étages au palais.
Celles qui ne sont pas. Ça va augmenter le nombre de pas par jour aussi.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a changé d'outil de call for paper qu'on avait un peu customisé aux petits oignons, l'équipe qui est quand même assez récurrente depuis quelques années, même s'il y a toujours des entrées et des sorties.
Il était codé un play framework, celui-là. Un escala. Donc, RIP, voilà, ouais, un minute,
c'est
moi je propose.
L'expérience utilisateur, en fait, qu'on avait vraiment améliorée. Et donc, c'est vrai que tout ce qui était un peu moins bien se sentait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a le troisième point, c'est qu'il y a quand même eu un peu moins de 1150 propositions et que c'est beaucoup à gérer pour. Même si on est beaucoup dans le CFP, on a tendance à essayer de voter large en tant qu'un public full stack. Et du coup, on n'est pas tous à les avoir tous revus, mais il y en a bien une petite dizaine qui a tout revu. Et du coup,
une grosse dizaine qu'on a quand même réussi à revoir les mille et quelques. Donc, rien que pour ça, bravo à toute l'équipe. Mais,
j'avoue que j'ai pas pu. Des tout review, il y a certains tracks que j'ai laissé tomber. Et que je me suis dit, c'est pas trop grave.
Ah ouais.
Ouais, ça fait.
Moi,
ça
le seul
fait,
truc, c'est genre les Red Hat. Du coup, Donc, on vote pas pour les gens qui nous emploient ou les affinités un peu trop fortes. Du coup, voilà. Donc, ça m'a permis de les enlever. Mais bon, il n'y en avait pas 300 non plus.
Ouais.
C'est ça, cette année, c'était calme.
Non, j'ai les plus, par exemple, le tout ce qui est. Oui, Arnaud, c'est vraiment ton sujet chouchou, je pense, mais les builds deploy et tout ça. Cette partie-là, j'avoue que ça ne me passionne pas. Et je ne suis pas experte et ça ne me passionne pas. Donc, j'ai commencé à cliquer abstention, vraiment en masse sur cela. Et puis d'autres, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps, j'avais trop de choses à faire et aussi une petite fatigue aussi. À un moment donné, quand t'as fait ça, je fais ça depuis 2015 malgré tout. Et là, oui, cette année, j'ai levé un peu le pied, voyons qu'il y avait des nouveaux qui sont hyper motivés pour voter. C'est ça, pour le coup, c'est important en fait de renouveler un peu l'équipe et de qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent. Des plus en plus de femmes aussi, pour le coup, plus de mixité.
On essaye, mais c'est compliqué. Bah, mais oui, on essaye. On sait déjà
aussi la mixité. Ouais.
Hein? Tu disais.
La mixité, elle est aussi technique, en l'occurrence. C'est un truc.
Mixité technique,
ouais,
c'est d'avoir.
C'est que ça, mixité tous les côtés, en fait. Ça,
du JavaScript.
Ouais.
Il y en a comme ça.
Non, l'agilité, du front, voilà, ça, c'est plus ouvert.
UX.
Et on a aussi.
L'agilité, un peu, quand ils sont souvent un peu ensemble.
Ouais.
Dans les conférences.
Depuis le Covid, ça nous a aussi forcé à rendre l'équipe un peu plus remote, parce que bon, à l'époque, on aimait bien, enfin, moi, perso, j'aimais bien, c'était aussi pour ça que je faisais Devox, c'était qu'on se voyait, on voyait des gens, et comme moi, je suis en full remote à longueur d'année, voir un petit peu les gens de temps en temps, ça me plaisait beaucoup, mais bon, c'est pas pour ça qu'on était plus efficace à faire les meetings en physique qu'en virtuel. Après, on mangeait des pizzas ou des japonais ou des choses comme ça, mais bon. Et donc là, c'est depuis qu'il y a eu la Covid, on a aussi pu passer en remote, et donc on peut avoir des personnes qui sont plus lointaines que de juste des Parisiens qui souffrait d'ailleurs un peu hein, de devoir faire des allers-retours à Paris et rentrer très tard les soirs de sélection, c'était quand même pas non plus top top. Donc voilà, on a quand même pas mal évolué aussi à ce niveau-là pour essayer que ça, et ça permet donc pareil d'avoir un plus grand panel de reviewers et donc un peu plus de mixité toujours.
Bon alors, c'était quoi les gros thèmes cette année?
J'étais surprise parce qu'il y avait énormément des trucs sur l'IA. Ça m'a, j'étais choquée. Sur qu'est-ce qui s'est passé, choquée, quoi. Choquée, dit, genre, mais je comprends jeunes. Pas, quoi. Alors que, ouais, c'est.
Je peux vous donner quand même quelques chiffres, parce que là, il n'y a rien du tout de confidentiel. J'en avais déjà parlé, puis genre, je ferai certainement un blog post quand j'aurai 5 minutes la nuit. Donc là, sur, on disait, on a eu 1100 et quelques propositions cette année. Ça a toujours été, comme chaque année, une avalanche sur le type conférence. Donc sur les conférences, on a reçu quasiment 750. Donc sur les 1100, 750 conférences. À côté de ça, 180 Tools in Action, 90 Lunch Talk, donc c'est les anciens quickies qu'on a renommés. Le reste, après, ça reste beaucoup plus léger. Et donc, cette année, l'avantage, comme vous disiez, c'est qu'on a énormément augmenté la place. Donc, on aura un peu plus de conférences, un peu plus de Tools in Action, un peu plus. Et puis, surtout, on aura 3 jours, on aura un peu de tout. Donc, c'est terminé le modèle où on avait uniquement les, enfin, comme DevOps Belgique, où on avait la première journée, donc, ou les 2 premières journées pour Belgique, avec les sessions longues et les 2 autres jours avec les sessions plus courtes. Là, cette fois, il y aura de tout le temps sur les 3 jours. Et en termes de contenu, bah juste si on donne les tracks. Alors les tracks, ça veut tout et rien dire. C'est là où effectivement on s'arrache toujours un peu les cheveux. Enfin, c'est pour ça que moi j'en ai plus, c'est mieux. Les tracks, c'est toujours très compliqué à définir. C'est toujours encore plus difficile pour nous comme pour les speakers de choisir dans quel track mettre leur sujet. Il y a toujours des trucs qui sont borderline et puis c'est normal. Mais aujourd'hui, bah la track qui a énormément attirer les gens, c'est effectivement développement et langage, mais qui est, ah non, pardon, donc la première, obligatoirement, c'est data et AI, enfin IA en français. Donc voilà, on a mis tout ce qui était big data avec tout ce qui était IA. Bon bah voilà, on a reçu 174 propositions qui sont dans cette track là, ce qui ne veut pas dire que les autres sujets d'à côté ne parlent pas d'IA, hein, parce que pour le coup on en reparlera peut-être après, mais il y a de l'IA partout, hein. Même si ça parle de n'importe quoi, il y a de l'IA. Donc, dans les autres sujets
qui sont... C'est assez surprenant, des fois, on se dit, mais je l'ai déjà revu, ce talk, en fait. Mais
non, c'est ça, c'est
un autre. Même agilité, comment j'ai supprimé mon Scrum Master avec ChatGPT, quoi. Non, je rigole, il n'y a pas eu ça, j'ai troll.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'IA. On a bien vu un certain sujet, certains sujets générés aussi avec le ChatGPT, on vous voit. Mais donc, très proche, hein, parce qu'au final, donc là je disais 170, mais on est aussi à 170 sur les développements et les langages, donc vraiment toutes les topics autour des méthodos de dev, autour des langages divers et variés, puisque nous, contrairement à... Par exemple, à DevOps Belgique, on n'a pas que la track Java, mais on essaie d'être ouvert sur les autres langages. Tout ce qui est build et deploy, donc que tu adores beaucoup, Katia, on en a eu aussi 160. Donc voilà, donc toujours des gros paquets. Hein. Architecture, tout ce qu'on a mis dans la track architecture. Donc là, on va en parler de toute la partie architecture générale, 170 aussi. Donc ça fait, c'est les gros, et people and culture, 150.
Voilà. C'est marrant sur la architecture. Pardon, avant que j'oublie, sinon j'avais oublié mon idée, comme tout à l'heure. C'est marrant parce qu'architecture, aujourd'hui, j'ai une vision de, OK, architecture, c'est, comment j'ai mes applications, comme ça, je les déploie comme ça, etc. Comment je build des trucs un peu gros, et en fait, il y en a beaucoup d'architecture plus à micro level, dans le code, plus de la vision architecture du code.
Ouais, genre orienté objet.
Voilà, exactement.
Diagonale architecture.
Exactement. Plus la partie coding. Et du coup, je trouve ça passionnant aussi le mot polysémique d'architecture, où les architectes intérieurs et les architectes des bâtiments tirent les cheveux en disant pourquoi vous utilisez ce mot. Genre, ils nous détestent pour ça. Ils disent qu'on n'aurait pas le droit d'utiliser ce mot pour dire architecture. Mais blague à part, oui, ça m'a amusé de le voir, la polysémie des tracks.
Et voilà, donc ça, c'est les grosses. Donc en fait, c'est ça, on a des gros pôles de tracks, d'autres qui sont beaucoup plus petits. On retrouve sur les Java, Mind the Geek, sécurité, server side, on est à moins de 100 propositions. Donc voilà, 2 gros paquets, on a les 5 grosses tracks et les 5 petites tracks. Après, sur les sujets, bon, bah, là, je vous laisse dire ce que vous avez vu, mais effectivement, il y a vraiment beaucoup d'IA. à toutes les sauces, je dirais, au niveau des langages, au niveau de l'utilisation des IA au quotidien, au niveau de, enfin, il y en a vraiment plein.
Ouais, c'est ça, les langages, sur comment ça va changer notre vie, sur comment on l'intègre dans notre application et comment on l'utilise au quotidien en tant que développeur, donc des Rex.
Et comment l'IA même fonctionne elle-même. Enfin voilà, donc après, les couches basses, donc tout ce qui va être base de données vectorielle, tout ce qui va être, enfin, donc implémentation même de l'IA et utilisation dans son, pas en tant que client, mais aussi en tant qu'implémentation de l'IA elle-même en fonction de votre place.
Moi, je trouvais qu'il y avait pas mal de fronts du genre non, mais Angular is back. Angular is back. Alors, je sais plus, la 17 ou 18. Voilà, donc il y en avait pas mal autour de ça.
Beaucoup de React d'autres... aussi.
Ouais.
Et des frameworks divers, JavaScript aussi.
Sans JavaScript potentiellement, votre site sans JavaScript potentiel.
Mm-mm.
Un peu d'inclusion de handicap aussi, bon que ça reste pas beaucoup, mais on en a vu quelques-uns, notamment des retours d'expérience. Donc ça, c'est cool.
Accessibilité, beaucoup l'accessibilité au cœur du départ, de quand tu vas réfléchir à un produit, de dire ça on l'inclut dès le départ, c'est pas à la fin de qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on va penser maintenant à tout ça. Non, dès le départ, sur plein différents aspects en fait de l'accessibilité. Donc très très bien.
Voilà. Et puis après, il y a la diversité classique de DevOps qui va de comment gérer une équipe, comment gérer, son propre développement personnel tiens, j'adore le package Java utile, internal, sub detail, cette fonction, la cinquième fonction va vous étonner.
C'est ça. Un petit peu de Cube, un petit peu de techno bas niveau aussi.
Des retours sur Cube, ouais, de la télémétrie. Bon, mais après, du coup, ça, c'est pas que c'est du... C'est de l'habituel classique, mais qui revient avec des sujets un peu nouveaux ou des fondamentaux qu'on a tendance aussi à pousser aussi, des piqûres de rappel, c'est bien aussi. Donc, on essaie de trouver un savant mélange totalement émergent.
c'est pas du tout
planifié top-down, mais...
Ah non.
En tout cas, ça promet.
Là, nous, on essaie de pas faire top-down. Et c'est compliqué de savoir un peu chaque année vers quoi on va aller. Nous, on le sait pas. Enfin, jusqu'au soir des réunions, enfin, on n'a pas trop d'idées de savoir finalement ça va être quoi le contenu. Bon, on se doutait bien que cette année, oui, l'IA serait là. L'année dernière, elle était déjà là un peu, un peu beaucoup, et là, elle est vraiment énormément. Mais c'est vrai que la sélection, c'est là où on essaye d'équilibrer un peu tout ça pour qu'il y ait un petit peu de tout, qu'il y en ait pour tout le monde, qu'on essaye de. Et clairement, on ne peut pas. Enfin, on retient. Un maximum de diversité de sujets et d'orateurs, oratrices, etc. Sans pour autant être trop... on s'assure que la qualité soit là autant que possible. C'est toujours compliqué. Hein. Il y a plein d'axes sur qu'est-ce que c'est qu'un sujet de bonne qualité, que ça soit sur l'abstract lui-même, que ça soit sur le contenu. C'est là où, effectivement, cette année, on a encore vu beaucoup de différences entre les propositions. Certaines étaient très, très chiadées. J'ai bien aimé, il y a même des personnes qui nous ont envoyé des pré-recordings, des pré-vidéos de 2-3 minutes sur expliquer leur sujet. Alors ça marche bien quand on est au début du CFP, quand on est à la fin, comme d'hab, il y a une vague, donc là ça devient...
Ça rentre pas dans les clous de...
Non, ça c'est là, faux. À la fin, c'est compliqué, ouais.
C'est ça, donc comme d'hab, enfin on conseille. Et là, cette année, ça a été assez différent parce que... autant historiquement on a très peu de soumissions au début et ça s'accélère énormément à la fin, l'année dernière c'était un peu plus rééquilibré, ça avait démarré assez fort et ça s'était maintenu assez fort pendant toute la session, même si après bon à la fin ça va très vite. Là cette année ça a fait un peu une sorte de U, on a eu pas mal de propositions au début, ça s'est calmé finalement en décembre pendant les fêtes etc, il n'y a pas eu une grosse vague, c'était relativement calme, et puis après, une fois de plus, arrivé en janvier, alors là, c'était la dernière grosse vague. Et c'est vrai que ouais, les sujets, il y en a qui sont vraiment, et on apprécie beaucoup hein, quand c'est bien détaillé, quand on sait un peu vers où on va, le contenu, etc., quand il y a des références, bien sûr, sur la personne ou sur le sujet, Il y en a d'autres qui étaient vraiment comme des fois bâclés. Bon là, faut le dire, là malheureusement, vous avez vraiment aucune chance si l'abstract ne s'autosuffit pas et qu'il n'y a rien d'autre autour. Il y a très peu de chances que vous fassiez.
Ouais, ça c'est un conseil, c'est que l'abstract il doit être vraiment clé parce que c'est la façon dont vous allez convaincre les gens de rentrer dans votre conf, parce que c'est ça qu'ils vont lire, votre titre, votre abstract. Mais en vrai, le CFP, soit vous êtes très fort et votre abstract il fait lécher les babines, mais un contexte, parce que vous serez, il y a peu de chances que vous soyez le seul sur ce sujet-là. Du coup, parmi les 15-20 abstracts qui sont un peu similaires, comment est-ce qu'on choisit? Ben, il y a les notes privé qui explique comment vous allez adresser le sujet, pourquoi vous êtes compétent dedans. Après, moi, je trouve que la popularité des gens, elle s'est un peu effacée cette année par rapport aux années d'avant, en tout cas moi, dans la façon dont moi j'ai voté. Mais c'était vraiment ça, c'est la qualité des infos que le dévoxien va pas voir, mais que le CFP voit. Et du coup, quand c'est TBD ou rien, bon, vous perdez des points.
Et cette année, enfin, quand je vois la sélection, j'ai pas encore fait les résumés ni rien, mais effectivement, une fois de plus, beaucoup de nouvelles têtes chez les speakers. Et ça c'est intéressant. C'est, on voit bien, bon, effectivement, il y a toujours des historiques qui vont passer, mais il y a un renouvellement constant. On voit très bien qu'on pourrait faire un Devox France avec que des Français. Hein. Honnêtement, vous êtes suffisamment nombreuses et nombreux à soumettre du contenu de valeur pour qu'on puisse faire une conférence que en français. Ça serait un choix possible. Mais voilà, il y a quand même, voilà, il y aura des déçus comme chaque année puisque, bah, comme on vous le dit, il y en a 1100 et quelques propositions et on en a retenu 250 maximum, donc une sur quatre, moins d'une sur quatre. Donc il y aura des déçus.
Et les confs, c'est 1 sur 7 à peu près, non?
Qui sont retenus. Alors, oui, j'ai retenus. Plus les stats en tête, mais c'est ça, je crois, sur les conférences, c'est quasiment 1 sur 7, puisque oui, c'est ça, puisqu'on a 700, donc il y en a une centaine, donc ouais. C'est 1 sur 7.
C'est 1 sur 7, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui se rassemblent aussi, c'est très, très compliqué à choisir les trucs. Et puis après, oui, cette année, j'ai vu, il y avait quand même certains titres un peu plus rigolos en faisant des jeux de mots et des choses comme ça. Et franchement, moi, je suis une grosse adepte de l'humour, vraiment, mais pendant la conf. Je pense que parce que les blagues dans les titres, si t'as pas le contexte, c'est très compliqué, avec des jeux de mots ou parfois, il y en a certains qui peuvent être un peu plus limites que d'autres, même si on voit de moins en moins. Mais il y en a eu parfois vraiment des titres très problématiques. Hein. Mais pour le coup, je conseille vraiment d'être le plus, d'avoir un titre qui soit concis de ce qu'on va parler et pas trop non plus. Ça, je le dis pour les années d'après, pas trop chercher à je vais être trop original et être intéressant parce qu'en fait, parfois c'est vraiment en étant plus simple. Que t'es plus intéressant en fait, parce que c'est clair et concis de quoi tu vas parler, et puis passer un peu de temps sur les notes, sur les références, des choses comme ça. Et en effet, après que pendant la conf, tu utilises des techniques d'humour ou des moments pour justement faire réagir le public et que ça soit pas que ça soit un peu vivant, ça je conseille. Mais voilà, l'humour, trop d'humour dans le CFP, l'écriture. Personnellement, ça me fait non.
Je pense qu'il y a un équilibre parce que je pense qu'il y a quelques années, on a dit aux gens non mais les confs où tu débites tous les sujets techniques les uns après les autres avec un cadre ordonné, thèse, antithèse, synthèse, c'est trop chiant. Les gens ils se sont dit ok, maintenant on va faire du storytelling. Une approche intéressante, c'est-à-dire c'est quoi, quel est le point que je veux apporter, c'est quoi l'histoire, etc. Et après, les gens, ils se sont dit, storytelling, moi, je vais faire Spielberg, je vais parler de dinosaures et tout. Et du coup, sur le titre, en fait, il décrit le nom d'un film qui a aucun rapport avec le Schmilblick. Du coup, on n'a même pas le contexte technologique. Ouais. Et au bout du troisième paragraphe, on commence à voir, ah, ok, en fait, il veut parler de Kubernetes, et voilà le lien avec le Diplodocus. Bon. C'est bien, mais c'est une belle histoire. Mais du coup, je pense que c'est super pendant la conf.
Voilà.
Au niveau de l'abstract, vous perdez beaucoup de temps à la compréhension de la personne, genre est-ce que je rentre dans la salle ou pas.
Ouais, exactement.
Ça, je pense que c'est super important parce qu'il y a vraiment deux auditoires à convaincre qui sont complètement différents. Et autant le participant qui vient à la conférence, effectivement, lui, il ou elle a un choix à faire. On a donc cette année, on aura 10 salles en parallèle. Et donc cette année, comme je vous le disais, de tout. Donc vous aurez soit des labs, soit des universités, soit des conférences, soit des tools in action, quasiment à presque tous les slots horaires. Donc c'est des choix compliqués à faire. Donc c'est sûr que les participants doivent eux choisir. Et souvent, même moi, mon expérience, c'est ça se choisit quand même très vite sur le titre. Et les gens vont effectivement pas nécessairement, quand on est dans la conférence, un, et préparer leur schedule, même si personnellement, je leur recommande, si vous voulez vraiment profiter de la conférence, il faut préparer son schedule, mais souvent, les gens vont à la dernière minute regarder un titre, c'est quoi lequel qui me plaît dans les 10, et je vais là. Et donc, ils vont pas lire hein, l'abstract. Donc, comme tu dis, Manu, s'il faut aller lire 15 lignes d'abstract pour comprendre que ça parle finalement de Kubernetes et non pas d'un pingouin, ça passe moyennement.
D'ailleurs, vu qu'il y a deux étages, il y aura une application du voyageur Google Maps intégrée pour savoir le temps entre les salles.
C'est ça. Ça va être ça va y avoir comme c'est les JO, en fait, on a prévu de faire des couloirs de course. Et donc, vous pourrez courir entre les différentes salles. Il y aura différents chemins et voilà. Ça va marcher comme ça. Non, je plaisante. Et par contre, faut d'abord nous convaincre. Avant de convaincre les participants, faut nous convaincre pour rentrer dans le CFP, tout comme il faut rentrer dans n'importe quel CFP. Et c'est vrai que c'est là où, donc justement, avoir un abstract qui, lui, parlera aux participants, nous, on le prévalide, on vérifie que ça nous semble cohérent par rapport à ce que le participant aura envie de lire et de voir. Mais par contre, il faut nous convaincre. Et c'est là où, effectivement, ces informations additionnelles sur l'abstract, qui n'ont pas à apparaître dans l'abstract, hein, vous n'allez pas mettre, je l'ai vu d'ailleurs une ou deux fois, je l'ai fait la remarque, mais ça sert à rien de mettre le plan détaillé de votre conférence dans un abstract. Enfin, c'est beaucoup moins intéressant et pour vous et pour le participant.
Surtout que ça peut changer, en plus, ça peut changer, parce que dès que tu commences à le faire, d'un coup, il y a un nouveau truc qui apparaît, boum, tu mets à jour et une formation supplémentaire, on est d'accord.
Donc là-dessus, c'est là où, par contre, sur la partie privée, bah, il y a intérêt à étoffer ce que disait Manu tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est plutôt vous que le voisin ou les 10 voisins qui ont proposé sur le même thème, qu'est-ce qu'il y a comme contenu, est-ce que nous, ça nous rassure sur votre capacité à présenter, etc. Et donc voilà, n'oubliez pas que c'est toujours les deux étapes. Premièrement, nous convaincre nous, et ça, faut effectivement mettre les infos qui vont permettre de le membre de sélection de choisir votre sujet. Et deuxièmement, s'assurer que votre salle elle est pleine. Et ça, faut que l'abstract et surtout le titre soit parlant et donne envie aux gens d'y aller. Et donc oui, méfiance sur tout ce qui est humour avec Katia, je suis complètement d'accord. Moi, il y en a plein que je supporte plus non plus. Il faut vraiment faire attention. Pour que ça reste vraiment applicable sans qu'il y ait de biais, sans qu'il y ait de machin, c'est très très compliqué de faire de l'humour, donc méfiez-vous.
Je dis moi personnellement, les traits me gênent pas, mais je vois que ça bloque certains du CFP, donc faites-le, soyez inclusif du coup.
C'est ça, quand il y a les trucs, les barbus, les machins, etc., là tout de suite pour moi ça fait tic, les barbus.
Les barbus, et il y a une époque aussi que c'était les mamans.
Ou les mamans, ou les machins, je me dis mais...
Les mamans, je ne sais pas quoi, je l'explique à ma mère. Non, mais, mais peut-être que ta mère a fait Google Chrome, tu vois, elle l'a coupé elle-même, tu vois.
C'est ça.
À un moment donné, c'est genre...
Non mais c'est...
Je l'explique à mon daron et ma daronne, ça passe ou pas?
Ouais, c'est...
Parce que j'explique aux vieux. Bon, ça va, j'espère. Ah non, parce que c'est pareil. C'est
pour pourquoi en fait
Moi, je suis vieux, non, c'est pas possible.
Mais non, les vieux, vivent les vieux en fait. Les vieux, ils ont beaucoup de choses à nous. Maintenant, que, tu vois, ça se voit bien que j'ai 42 ans hein, quand même. Là, je suis en mode vivent les vieux, la vieillesse, c'est importante. Alors qu'avant, c'était genre aller prendre la retraite, tu vois.
Laissez la place.
C'est la place.
Maintenant, c'est genre on est bien, ouais. on a besoin de vous, les aînés. Mais oui, c'est les trucs de comment je voyais les trucs de les mamans ou je sais pas quoi, c'est pour des barbus. Franchement, t'es genre. Mais en tout cas, c'était vraiment génial en fait. Mais vraiment génial le programme, ça va être, je pense. Je pense que ça va être une très très belle conf. 3 jours, je pense que c'est pour le coup un très bon truc qu'on ait 3 jours égaux en termes de. Avoir de deep dive, avoir de TIA, des lunch talk, et que ça soit, qu'on ait un peu de tous les 3 jours.
Il y aura de tout, les labs sont plus grands, vous avez 40 à 60 places dans les labs, donc si vous vous souvenez, avant c'était 20 ou 30, donc on a doublé la taille des labs, il y en a un peu moins en termes de nombre, mais ils sont plus grands, voilà, donc on espère que ça vous plaira. Et voilà, donc ça c'était les quelques minutes de promotion d'Evox France, et surtout d'explication de comment que ça se passe un CFP, et de ce qu'il y a comme contenu cette année.
À guichet fermé, de toute façon.
Il y aura une re-sélection, mais je crois qu'elle sera sur liste d'attente, donc c'est à mon avis déjà quasiment mort, je pense.
Ouais. Ok. Bon. Écoutez, moi j'ai 10 minutes avant un réenchaînement de plusieurs heures de conférences. Donc il y a plein de conférences qui, là encore, on a extrait les infos de, qui sont collectées par Aurélie Vache. Du coup, vous pouvez aller voir là ou peut-être même plutôt sur le site d'Aurélie en direct pour voir les prochaines conférences qui arrivent près de chez vous sur les sujets qui vous intéressent. Hein, parce que c'est pour le coup pas ce qui manque, c'est ça a explosé post-Covid. Ouais.
Et à noter qu'elle a encore amélioré son site web pour justement maintenant noter les conférences, et ça nous on l'affiche pas, je crois pas, celles qui offrent des, enfin qui offrent ou qui aident sur les tickets. Diversité, etc., etc. Voilà. Donc le site et le service continuent de s'améliorer pour voilà vous donner encore plus d'informations et de métadonnées autour des conférences qui ont lieu toute l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder son site web qui effectivement sera beaucoup plus riche que le simple extract que l'on fait du Markdown.
Allez, bisous à tout le monde. J'espère que vous passez une bonne journée. On a des interviews qui arrivent. On vous dit pas quoi, mais ouais, on a plus qu'une. Sans... Donc on essaie de remettre en place le.
Ça revient.
La machine. Voilà.
Oui, merci, ouais. Merci à toutes et à tous, tout le monde qui a participé dans le formulaire qu'on a envoyé pour l'avis. Il est toujours en place, ce formulaire, donc vous pouvez donner.
Cascodeur.com/sondage, je crois.
C'est ça, c'est dans le lien de, on l'a dans le site de Cascodeur, à côté, pile et stratégiquement placé à côté du Patreon. Donc, tu peux contribuer avec l'argent et avec tes idées, et ou avec les deux.
C'est
en fait,
ça, la double
c'est la stratégie UX. Hein, moi, j'ai, tu vois, ça c'est.
Elle est forte.
UX est-ce design. Est-ce que t'as fait quand il se rapproche sur sondage, ça inverse le lien avec
ah ouais, en fait, ça
t'envoie. Mets de l'argent avant de donner ton avis.
Exactement. Et non, mais pour le coup, merci pour tous les retours donnés qui sont précieux et hyper intéressants et positifs avec plein d'idées et plein de choses là-dedans. Et puis, ouais, il y a deux interviews qui vont partir bientôt dans le four. Et bientôt ils sortiront du four. Voilà.
Super. Alors,
ouais. Bah écoutez, merci beaucoup.
Ciao.
Pour ce moment. Ciao. Allez, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.